Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station!
Vive le sport féminin, nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+, et sur Facebook toujours, Instagram, X, Internet, Android encore, Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre appli, notre site IDFM Radio et Big Bang Station. L'émission est toujours rediffusée sur de nombreuses radios en France et ailleurs. La liste sur notre site internet bigbangstation.fr. Big Bang Station, c'est depuis 26 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs musique, télé, BD, high-tech, histoire collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de sport féminin, puisque le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin, comme va nous le rappeler Petit Manu.
Bonjour Didier, bonjour à vous tous. Tu as très bien dit, eh ben ouais, c'est le sport féminin. Eh ben, c'est le moment de savoir si vous savez pas. Eh ben, je vous dirai ce qu'il faut savoir. Tout nous. C'est le moment jamais, jour J.
Les partenaires de cette journée sont nombreux, le ministère des Sports, bien sûr, le secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, bien sûr, l'association Femix Sport aussi, dont nous aurons Ajar Fataïcha, sa chargée de communication et de développement au téléphone. Le développement du sport féminin, une opportunité pour les marques, ça sera la chronique de Chimel. William nous parlera e-sport féminin.
Effectivement Didier, et salut tout le monde. Dans le milieu du sport électronique, largement dominé par les hommes, les femmes cherchent à s'imposer, bien que cela reste difficile.
Enfin, pour notre dernière partie sur la culture, Kevin nous proposera un quiz sur les sportives françaises qui chantent.
Et oui, salut Didier, salut à toutes et à tous. Eh bien oui, car avant de pousser la chansonnette, certaines femmes étaient sportives. Qui sont-elles? La réponse tout à l'heure.
Wins Dollar nous fera découvrir une peintre qui tire le portrait de femmes sportives. Stani est parti en quête des séries télé qui mettent en avant le sport au féminin. Enfin, Eric va nous présenter les combattantes.
Salut Didier, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de rugby, de femmes, avec une bande dessinée remplie d'espoir et d'histoire avec la BD combattante d'Isabelle Colomba et Sophie Bouxom.
Et l'émission est réalisée par Didier de
Lambalie. Ah, c'est le premier créateur. Didier.
Une petite pensée pour Didier 2 qui est à l'hôpital.
On espère que c'est pas trop grave. Coucou amical.
Bon rétablissement Didier 2.
On est tout cœur avec toi.
Le sport féminin devrait dépasser le milliard d'euros de revenus en 2024 selon une étude du cabinet de conseil Deloitte. Un record, mais il reste encore beaucoup de choses à faire en matière d'égalité hommes-femmes dans le sport. C'est dans ce but que la journée internationale du sport féminin a été créée. En quoi consiste-t-elle? La réponse avec Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Baraka Obama. Donald Trump. Il arrive. Milton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les cravotes.
Tous les quoi?
Alors, vous voulez savoir tout ce que c'est le sport féminin? Tu as très bien fait l'introduction, on ne pouvait pas mieux faire Didier. Alors, c'est une réflexion du CSA à propos de sous médiatisation du sport féminin qui a été l'origine de la création. Et c'est la première journée, il faut savoir, en 2014. Elle est soutenue par différents ministères, sport, jeunesse, éducation, populaire, vie active, comme tu as très bien dit. Et l'éducation populaire, les droits aussi, les droits des femmes. Et justement, tu as très bien parlé de l'association Femix, qui est nous, on aura un téléphone, comme tu as très bien la collaboration sportive, et sportive et COF. Et en fait, l'origine de la journée du sport est le 24 pour la journée féminine toujours, et la date à laquelle elle est célébrée est devenue variable. Et cette opération de médiatisation est de promouvoir la pratique sportive féminine et ancrée le sport dans tous les usages. Ce qu'il faut savoir, je vous le dis, maintenant, vous êtes bien prévenus, mon cher Didier.
Merci, Petit Manu.
Je t'en prie.
Le sport féminin de plus en plus présent dans les médias français, l'Euro féminin de 2022 avait captivé plus de 6 millions de téléspectateurs sur TF1.
C'est remarquable.
Ah ouais, c'est énorme, ouais. Oulala.
TF1 qui a acquis d'ailleurs l'intégralité des droits de diffusion du prochain Euro féminin de football, qui se tiendra...
En Allemagne.
En Suisse, voilà. Qui se tiendra en juillet 2025. Analyse de cette hausse de visibilité par Ajar Fataïcha, chargé de communication et de développement chez Femix Sport, que nous avons au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Les compétitions sportives féminines retransmises à la télé ont quasiment doublé depuis 2018. Cette visibilité est-elle le reflet d'une augmentation de la pratique sportive féminine ?
Alors, en effet, les chiffres, ils ont légèrement évolué. Hein, d'ailleurs, d'après un rapport de l'INJEP, entre 2018 et 2022, donc on est passé de 71% de femmes qui affirment pratiquer occasionnellement une activité sportive, ce qui représente une augmentation de 8 points entre 2018 et 2022. Donc, c'est une légère augmentation. Donc, je dirais pas que c'est la raison pour laquelle il y a plus de visibilité des sportives. Par contre, on peut se demander pourquoi plus de médiatisation. Donc à cette question, je vais répondre que d'une part, il y a de grandes équipes, par exemple dans le foot ou dans le hand, qui ont donné envie à des filles et à des femmes de pratiquer du sport. Donc c'est un peu l'idée de l'importance du rôle modèle dans la pratique. Donc ça inspire. Il y a également des enjeux politiques et économiques. Donc l'exemple, par exemple, de la fédération de foot qui compte le plus de licences en France. Si elle veut continuer en fait à s'étendre et à gagner en notoriété, elle ne peut plus viser encore plus de licences hommes ou garçons qu'elle n'en a déjà. Donc forcément, elle va viser un autre profil de licence, donc les filles et les femmes. Donc c'est aussi un enjeu politique et économique. Et également tout ce qui concerne les politiques publiques qui visent justement à faire augmenter la pratique et donc la visibilisation derrière. Et donc parmi ces politiques, on peut citer les plans de féminisation ou les politiques de quotas pour ce qui est des instances dirigeantes.
Et la pratique du sport féminin représente 20% à peu près des séquences visionnées contre plus de 65% pour la pratique masculine. Selon une étude publiée en septembre par le régulateur des médias, l'écart reste quand même très grand.
Oui, alors cet écart, il est grand, mais on passe quand même de 20% de séquences visionnées à beaucoup moins quelques années auparavant. Donc ça reste une forme d'avancée. Après, on part de loin. C'est-à-dire que juste le siècle dernier, on avait Pierre de Coubertin qui nous disait qu'une Olympiade femelle serait impraticable, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Oui. Et que le véritable héros olympique, c'est l'adulte mâle individuel. Donc il y a vraiment cette idée-là que finalement, en fait, les stéréotypes liés au genre sont encore très, très, très présents et donc forcément influencent le fait que le sport, que les sportives soient plus ou moins visionnées. Donc il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. Donc on a quand même un siècle de retard sur la médiatisation des sportives. Donc il y a tout ça qui rentre aussi dans le questionnement. Il y a aussi de grandes marques qui pourraient encore mieux s'investir auprès des sportives en termes de matériel, en termes de médiatisation, en termes de sponsoring. Donc les marques ont aussi un rôle à jouer dans ça. Et enfin, un point qui me semble aussi important, c'est les moyens mis en œuvre dans la médiatisation des sportives. Donc le nombre de caméras pour un match, la qualité de la retranscription, tout ça, ça joue sur... le nombre de personnes qui va visionner finalement les retranscriptions médiatiques des sportives.
C'est encore tabou de pratiquer certains sports quand on est une femme ?
Alors tabou, c'est pas le mot que j'utiliserais. Je dirais que oui, certains sports sont encore fortement connotés, donc comme appartenant à une partie de la population. Et effectivement, plus de 80% des clubs ont plus de licenciés et S que de licenciés et ES. Donc voilà, il y a des sports qui sont très fortement stéréotypés. Par exemple, dans les 20% qui restent, on va pas se cacher, ça va pas être le foot ou la boxe qui sera le plus représenté. Parce que voilà, donc par exemple la danse, on a 85% des licences, c'est des femmes ou des filles. Dans le foot, on a seulement 10% qui représentent des licences femmes ou filles. Donc c'est vraiment un gros décalage encore, et donc ça c'est pareil, c'est tout ce qui est stéréotypes de genre qui sont véhiculés par exemple pour les jeunes au niveau des parents, des stéréotypes qui sont partagés et finalement qui influencent le choix de la pratique sportive et la reproduction des pratiques genrées. la pratique des sportives est aussi liée à l'encadrement professionnel ou bénévole, d'où les politiques de quotas ou encore l'importance du rôle modèle. Donc ça aussi, c'est un point intéressant donc de savoir, par exemple, nous, avec mon association, donc je suis chargée de communication et de développement chez Femix Sport, on propose justement des formations auprès des dirigeantes sportives dans les milieux fédéraux pour justement faire en sorte qu'elles prennent plus de responsabilités et qu'au niveau des instances décisionnaires, il y ait plus de femmes dans ces postes-là, ce qui pourrait, selon nous, vraiment avoir un impact finalement sur la pratique et sur les pratiques genrées.
Et est-ce qu'il y a encore des sports avec des licences exclusivement masculines ?
Exclusivement non, mais par contre on a des chiffres vraiment dans certaines fédérations où vraiment je crois, il me semble que ça doit être 2% de licences femmes, je crois que c'est en Fédération Française de Pêche, on a le rapport de l'INGEP qui nous dit ouais, il doit y avoir quelques 2-3% de femmes pour 98% d'hommes quoi.
Et les JO 2024, c'est 10 500 athlètes, autant de femmes que d'hommes, on peut lire sur le site internet officiel. Enfin, l'égalité, on pourrait peut-être rajouter un point d'interrogation ?
Alors oui, on peut parler des JO comme les premiers JO paritaires. En revanche, voilà, il y a encore des inégalités. Par exemple, au niveau des postes, bah, si on regarde les coachs, les entraîneurs, on n'a pas une parfaite parité. Donc ça s'améliore, c'est quelque chose qui tend à s'améliorer, mais il y a toujours un gros chantier, si je puis dire, sur les questions de parité, d'égalité dans les pratiques sportives.
D'ailleurs, la Poste fait une opération sur les arbitres femmes en ce moment.
Bonjour Ajar, je suis Kevin. Alors justement, ces Jeux Olympiques de Paris, comment vous les sentez ?
Alors, comme on a pu dire, c'est les premiers Jeux paritaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une évolution, une amélioration en termes de répartition des athlètes, en tout cas femmes-hommes, au niveau des représentations. Après, il y a toujours d'autres problèmes qui peuvent émerger. Par exemple, en termes de moyens alloués, des moyens mis en œuvre pour les clubs, pour les fédérations sportives, pour les femmes ou pour les hommes, il y a des moyens qui sont vraiment différents, toujours. On a eu récemment un enregistrement de podcast dans nos locaux à la Cité Audacieuse, à Paris, des championnes du monde. Et Marie Patouillet, qui est championne deux fois médaillée au JO de Tokyo, elle est dans l'équipe de France, de Fédération Française de Cyclisme, elle disait que, voilà, par exemple, pour les tenues, donc pour le paracyclisme, les tenues, les shorts pour les femmes n'étaient toujours pas reçues. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de moyens mis en œuvre par les fédérations sportives. Donc, qui sont vraiment contraignants et finalement qui font émerger encore des gros problèmes de société et qui nous montrent vraiment qu'il y a des améliorations, mais qu'il y a encore un gros travail à faire.
Eh ben merci Ajar Fataïcha, chargée de communication et de développement chez Femix Sport.
Merci beaucoup, merci à vous.
Le sport féminin continue donc de se démocratiser et s'avère être une opportunité pour les entreprises et les marques. Voici les détails de Chimel. La chronique mode revient dans Big Bang Station.
Nous parlerons mode et cause animale dans ma chronique.
Oh, qu'extraordinaire! Et puis je peux vous dire, eh bien les bouchées du Louvre, elle perd pas le nord, hein, c'est notre merveilleux Chimel. Ah là là là.
Chimel,
que du bonheur! On voit pas passer les heures.
Retrouvez les explications de Chimel.
À toutes. L'augmentation de l'audience et l'intérêt pour le sport féminin attire les marques et les entreprises qui voient un potentiel commercial. Une multitude de nouvelles pratiques sportives féminines émergent et continuent de faire évoluer cette tendance. Selon plusieurs études, les Françaises sont de plus en plus nombreuses à pratiquer du sport, son intérêt et sa consommation sont donc en pleine évolution. Le sport féminin se voit alors comme une très grande opportunité pour les entreprises et les marques. Ben oui, car pour les marques, investir dans le sport féminin représente non seulement une opportunité de croissance, mais aussi une manière de contribuer à l'avancement de l'égalité des sexes dans le monde du sport. De nouvelles disciplines voient le jour, d'ailleurs comme le swim cross, qui est très apprécié des femmes, qui mélange fitness, natation et crossfit. Une pratique sportive qui allie endurance, haltérophilie et gymnastique. On y retrouve également le hip-hop yoga, une pratique très peu connue mais relaxante, où R&B, rap et hip-hop apportent une dynamique à la pratique. cette multiplication de pratiques de sport, telles que le hip-hop yoga comme je l'ai cité, le swim cross, mais aussi le running, le pilates et même la musculation par les femmes, a été une occasion pour beaucoup de marques de se diversifier ou de développer des lignes spécifiques de vêtements pour suivre ce phénomène. De nouvelles marques de sport de fitness spécialement conçues voient le jour, des vêtements dédiés aux femmes pour qui le sport est un mode de vie et pas que. Pour les accompagner au quotidien, avec des tenues loungewear, l'idée est d'allier confort, style et bien-être. Les marques et les sponsors reconnaissent le potentiel de ce marché en expansion et cherchent à s'associer à des clubs et des athlètes féminines pour promouvoir leurs produits et services. Cela ouvre de nouvelles possibilités de partenariat, bien sûr, et de revenus pour les clubs de sport féminins. Par exemple, lors de la Coupe du Monde féminin de la FIFA 2019, on peut voir qu'il y a eu des records d'audience attirant des milliers de téléspectateurs à travers le monde, ce qui donc favorise ce marché en expansion. Ce qui est sûr, c'est qu'entre la couverture médiatique, les supporters et la tenue vestimentaire des équipes, il existe un réel potentiel de développement pour une marque. C'est donc une évolution qui continue de gagner du terrain et qui promet un avenir plus qu'équilibré et inclusif pour le marketing sportif féminin. Ce que nous retenons, c'est qu'au fil des années, le sport féminin a donc gagné en visibilité et en popularité, attirant l'attention des marques et des sportives, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Merci Chimel. Qui dit sport dit aussi e-sport, cette discipline où des joueurs s'affrontent en compétition sur une partie de jeux vidéo. En France, les femmes sont sous-représentées avec seulement 6% en 2020. Quelle est la place des femmes dans ce domaine? William nous l'explique en détail.
William est connecté jusqu'au bout des doigts.
Ce soir, dans ma chronique high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions.
Appli, objet connecté, retrouvez la sélection de William.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours?
Pour expliquer la faible présence féminine dans le e-sport, il y a deux grandes raisons. La première, c'est à cause d'une construction sociale genrée. En effet, comme la compétitivité est découragée chez les jeunes filles et qu'elles ont moins de temps pour les loisirs que chez les jeunes garçons, elles ont découvert tardivement les jeux vidéo de compétition. Dans cette optique, le public féminin a été négligé par l'industrie du jeu vidéo pour certaines catégories de jeux et ce, pendant de nombreuses années. La seconde raison, c'est surtout du fait d'un climat sexiste et misogyne dans le milieu. En effet, des joueuses professionnelles font face à du cyberharcèlement avec des insultes et des propos dégradants. Pour cette raison, cela décourage beaucoup de femmes à s'y lancer. Selon une étude de la société Brighter de 2020, réalisée sur 2000 joueuses au Royaume-Uni et aux États-Unis, une femme sur 4 affirme que les comportements toxiques ne lui donnent plus envie de jouer en ligne. Autre conséquence, elles ont beaucoup de difficultés à intégrer des équipes professionnelles mixtes et à participer aux plus grands championnats d'e-sport. Heureusement, des initiatives ont été mises en place. Différentes entreprises du jeu vidéo, dont Ubisoft et Steam, ont pris des mesures comme le repérage et la mise au silence des joueurs ayant tenu des propos problématiques. Nous avons aussi l'association Women in Games qui propose de l'accompagnement avec du mentorat, de la formation et la création d'incubateurs. Du côté des clubs d'e-sport, des équipes exclusivement féminines ont été créées comme les French Bees ou encore G2L pour le jeu League of Legends. Enfin, il existe un championnat féminin, le Girl Gamer Esports Festival. Pour rappel, les femmes représentent près de la moitié des joueurs de jeux vidéo et même si on peut constater quelques progrès, il y a encore du chemin à faire pour parvenir à la parité entre hommes et femmes. C'est tout pour moi, je rends le micro.
Merci William. Avant d'ouvrir notre page culture, musicale avec Kevin, télévisuelle avec Stani, littéraire avec Eric et artistique avec Wins Dollar, écoutons le premier titre du quiz de Kevin. Sauriez-vous reconnaître qui chante ?
Résonne un cri qu'on abandonne, unissons nos voix.
Voilà, c'était le premier titre du quiz de Kevin. Un petit indice, Kevin.
Eh bien, c'est une chanteuse qui a fait, qui a connu le succès il y a maintenant 20 ans grâce au titre « Et c'est parti », notamment.
Voilà la réponse dans quelques secondes, puisque nous ouvrons notre page culture par de la musique. De nombreuses championnes françaises sont connues dans le monde entier, comme la navigatrice Florence
Artaud.
Voilà. La nageuse Laure
Manoudou.
L'athlète Marie-Josée
Pérec.
Ou encore l'ancienne tenniswoman Amélie
Mauresmo, c'est ça, voilà. On l'a fait en duo, quoi.
Et certaines ont même été sportives avant de devenir chanteuses. Qui sont-elles? La réponse dans le quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais
Eh bien oui, parce que les chanteuses sont aussi des sportives frustrées. Certaines se prédestinaient à une grande carrière de championne avant de tout plaquer pour se consacrer à la musique. Et justement, hein, ces chanteuses, je vous propose de les écouter avec quatre titres. On commence par une chanteuse que vous venez tout juste d'écouter. De qui il s'agit à votre avis ?
Manu, il connaît.
Oui, mais...
Alors, elle est née...
T'as dansé et swingé dessus.
Elle est née à Tours en 1973. En tout cas, elle est toujours très belle. Elle est toujours aussi sportive.
Oh, petit Manu, tu la connais.
Oui, mais je vois pas. Tu vas, Eric?
Ouais, je la confonds toujours avec Amel Bent.
Alors, c'est pas tout à fait Amel Bent, mais non,
mais
c'est
je,
pas
ouais, mais je la confonds toujours, mais ouais. Je vois que...
Elle a fait aussi une chanson qui s'appelle Parle-moi, il y a 20 ans.
Ah, c'est ça.
Non, pas Zao, non.
Non, Zaz.
Qui ça? Non. Son prénom, ça commence par un N.
Et Nadia. Ça,
oui, Nadia.
Nadia, tout à fait. Nadia. Et je crois qu'elle n'a pas fait quelque chose comme un rock.
Mais c'est la chanson qu'on entend tout juste.
Oh là là,
bien
que t'as reconnu. Ah bah, je le connais très bien, mais yo. Oh là, elle a même fait aussi un duo avec le fils Enrique Iglesias.
Absolument.
Le fils de Julio, oh là là. Elle n'a pas froid aux yeux. Effectivement, mais yo, quand on la voit. Elle déménage, hein. T'as bien fait, voilà.
Et oui, Nadia, avec ce titre rock. Est-ce que vous saviez qu'avant d'être chanteuse, Nadia, elle était athlète?
Ah bah alors là, ah bah non, tu nous apprends, franchement.
Eh bien, en effet, elle a commencé l'athlétisme à l'âge de 10 ans. Elle est devenue championne de France junior du 800 mètres à l'âge de 16 ans. Elle est même devenue l'une des espoirs de l'athlétisme français à l'âge de 17 ans. Elle avait aussi un frère sportif, Kader, qui était champion du monde de boxe française.
Donc, autrement dit, elle a commencé très jeune sa carrière sportive.
Et oui, hein, tout à fait. Bah, elle a enchaîné les entraînements. Et dès l'âge de 20 ans, bah, elle a décidé de tout plaquer pour tenter sa chance dans la chanson. Et c'est à partir de 2004 qu'elle a vraiment connu le succès avec des titres comme « Parle-moi » et « C'est parti ». On passe à une autre ancienne sportive devenue chanteuse, de qui il s'agit. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down to my side. Alors, elle s'appelle Nadia, mais c'est pas sur son nom qu'elle est le plus connue.
Une autre Nadia.
Oui, elle s'appelle précisément Nadia Mladjao.
Ah, elle n'est pas d'origine africaine.
Comorienne.
Ah, comorienne, d'accord, c'est le Comor, d'accord.
Son nom de scène commence par un I et se termine par Y.
Ah,
Non, fais pas ce que tu connais,
Non, je vois pas.
Je l'ai sur le
boulot. Non, je cherche,
J'ai même eu la chance, l'occasion de la rencontrer en interview il y a 3 ans.
Est-ce que ça s'est bien passé, à mon frère?
Oui, tout à fait.
Bah non.
Alors, si je vous dis Ima, la suite c'est quoi?
Imani.
Oui,
Imani, oulala, puis elle passe sa langue dans sa poche, oulala, une sacrée personnalité, Imani.
Et oui, hein, Imani, avec ce titre Don't Be So Shy de 2016, eh bien, comme sa consoeur Nadia, Imani était aussi athlète. Elle avait fait une formation sportive à l'INSEP et elle s'est entraînée pour le saut en longueur.
Et justement, c'est ce que j'ai dit, l'INSEP dit, vous savez, ça se trouve, tous les grands sportifs à Vincennes, comme ça, ils travaillent beaucoup et ils ont une discipline. Justement, j'allais en parler, t'en as parlé, eh bien, une bonne coïncidence.
Et durant son adolescence, elle a participé au championnat UNSS, qui veut dire UNSS.
Eurosportif.
Il y a sport, bien sûr, dedans.
Union. Union, et puis peut-être française.
Non. Union nationale du sport scolaire.
Voilà, c'est ça. Vous pouvez bien le dire.
Elle avait participé donc au championnat UNSS Benjamin, et elle est arrivée en finale des championnats de France jeunes. Mais dès l'âge de 17 ans, elle a fini par laisser tomber le sport pour se consacrer au mannequinat. Elle a été repérée par une agence de mannequins à l'âge de 17 ans. Et ensuite, elle a signé un contrat de 3 mois pour Calvin Klein. Et à partir de 2008, elle a décidé de se consacrer à sa carrière de chanteuse. Et on peut dire que jusqu'à présent, c'est une réussite. On poursuit avec une autre chanteuse, également ancienne sportive. De qui il s'agit à votre avis ?
Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire, pour moi c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je sois sa nana. Me faire des mini-moi. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi je suis dans celle-là. Là.
Alors c'est une chanteuse qui est née en 1995. Elle a fait des titres comme Pookie, La Dot. Elle avait même fait il y a quelques années une petite bourde au Téléthon.
Elle a fait le Téléthon de quelle année?
Ouais.
C'était en 2019.
Quelqu'un qui avait une bourde?
Une gourde?
Pas voilà. Une petite bourde, mais pas bien méchante, quoi.
Ouais, peut-être l'émotion.
Alors si je vous dis Aya.
Ayaka Kusa. Aya.
Non. Aya Nakamura.
C'est ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ah ouais, et puis elle a des beaux cheveux très élégants.
Quelle bourde elle avait faite?
Ah bon?
En fait, c'était. C'était pas bien méchant, mais elle était à côté de Nagui. Et en fait, elle avait oublié de préciser que lors du Téléthon, c'était important, on va dire, de donner pour faire avancer la recherche, etc. Elle avait juste oublié de.
D'annoncer peut-être.
De faire un message, on va dire, pour le Téléthon. D'ailleurs, le numéro, vous vous souvenez, c'est quoi le Téléthon?
36-37.
Absolument.
Avec Sophie d'avant et la dernière personne.
Et Nagui.
Le dernier. Responsable, c'était Yannick, quoi.
C'était le parrain.
Le
oui,
parrain,
oui.
Tout à fait.
Et oui, hein, Aya Nakamura, avant d'être chanteuse, elle avait pratiqué la natation, vous le saviez?
Ah bah voilà.
Non.
C'est là où on apprend des choses. Oh là là, c'est très instructif.
Dans une interview au magazine Elle en 2019, elle avait expliqué ceci, je la cite. La Fédération Française de Natation voulait m'enrôler dans les compétitions. Je commençais à aimer le maquillage et c'est relou d'être tout le temps mouillée. C'est dommage, elle aurait pu faire une carrière à la Norman Outou. Hein. Finalement, elle a choisi la chanson et c'est pas plus mal, hein, car ça se porte plutôt bien pour elle. On poursuit avec une ancienne footballeuse, cette fois. De qui il s'agit à votre avis ? C'est une footballeuse qui a joué pour un club suisse, le Grasshopper Club Zurich.
C'est une Suisse ?
Oui, ouais. C'est une Suisse, oui. Ah. Alors là, c'est un peu compliqué. Elle s'appelle Naomi, mais c'est pas Naomi Campbell.
je sais que là-bas, il y a le Lida, c'est le chocolat, le La Clément, mais...
Elle a été footballeuse professionnelle pendant plusieurs années. Alors là, elle s'appelle Naomi La Reine.
Ah, faut savoir. Tu nous apprends.
Naomi La Reine avec ce titre Just Meet. Et oui, hein, c'est une ancienne footballeuse qui avait même participé au championnat d'Europe en 2011 avec l'équipe nationale suisse des moins de 19 ans. Elle a consacré une bonne partie de sa vie au foot. Elle avait d'ailleurs déclaré ceci chez Red Bull. Je me suis de plus en plus trouvé dans le foot. J'ai réalisé que j'étais quelqu'un qui pouvait accomplir des choses. J'avais énormément besoin du football pendant cette période. Et finalement, s'être consacré à sa carrière de footballeuse, bah, c'est finalement consacré à sa nouvelle carrière de chanteuse. Mais c'est pas par hasard, car elle était déjà aussi passionnée par la musique depuis son enfance. Elle s'était même initiée au piano à l'âge de 15 ans. On termine avec une artiste française, une chanteuse et actrice plus précisément, qui est aussi une ancienne sportive. Sans doute vous allez la reconnaître.
Il y en a qui sont fous d'impatience, d'autres disent c'est sans importance. Week-end idyllique, succès automatique. Il y a ceux qui draguent sur la plage, d'autres...
Alors c'est une chanteuse qui est née en 1982 et son vrai prénom c'est Laure.
Ah, elle habite même dans le sud, je crois. Vers Marseille.
Oh, on n'a pas son adresse.
Non, mais.
Son numéro de téléphone.
Et je crois que
Comment c'est que tu l'as?
Oh, pas du tout. Son manager, c'est même un certain Philippe, qui est bleu ou Lucas, quoi. C'est pas Laure Manaudou.
Non, c'est pas Laure Manaudou. Mais en fait, elle est plus connue sur son nom de scène. Son nom de famille, c'est Pester.
Laurie. Je confonds. Elle est plutôt dans le Val-d'Oise.
Alors, Laurie Pascal, par contre, j'ai son adresse.
Mais ah bon?
Et l'adresse de ses grands-parents. Mais ça, c'est.
Mais non, elle est dans le Val-d'Oise et je crois qu'elle fait beaucoup plus tôt. Je confonds, j'ai confondu. Elle fait plutôt du rôle du patinage. Voilà. Ah. Oui.
Ça, c'est une autre histoire.
Oui, sportive, oui. Puis. Ah oui, Laurie. Plutôt dans le Val-d'Oise, 95.
Bah on la salue, hein,
c'est lui qui écoute,
bien sûr, bienvenue dans cette émission, n'est-ce pas Didier?
Ça serait bien qu'elle puisse me dire, c'est
un jour. Je l'ai déjà rencontrée dans des soirées.
Ah bon? Bah dis donc, t'as dû passer un moment avec elle, j'imagine.
Un grand moment.
Non, Laurie, les belles choses, et puis c'est un jour tout dur, pas de problème, on t'invite.
Et oui, hein, Laurie Pester avec ce titre Weekend, Laurie qu'on a connu sous le nom, pas sous le nom de Laurie Pester, mais plus sous le nom de Laurie tout court, avec des titres comme Je serai ta meilleure amie, La positive attitude, J'ai besoin d'amour, sous un air latino. Et cette chanson qui s'intitule Weekend, c'est une chanson qui était sortie en 2004. Mais avant cela, Laurie se prédestinait à une carrière dans le patinage artistique, comme Philippe Cantelou.
Exactement, c'est ça. Je crois. Ah ouais. Et je crois qu'après, quand c'est sorti près, j'imagine, elle a vraiment dit son famille. Faut laisser le temps.
Elle est devenue aussi maman d'ailleurs.
Ah, ouais.
Elle a même joué dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient.
C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'elle a eu des petits problèmes. Mais c'est bien qu'elle soit maman. Oh là là. Belle chose pour elle.
Alors dans une interview, elle avait accordé une interview il y a quelques années chez nos confrères de Combiniste à l'occasion de la sortie de son livre « C'est pas si compliqué ». Et elle avait déclaré ceci: « Je voulais être championne de patinage artistique, puis voilà, un jour j'ai eu un drame. Je me suis pété le genou à 2 mois des championnats de France. Quand j'ai compris que le patin c'était fini pour moi, j'ai réfléchi à ce qui me plaisait dans ce sport. » Elle a même ajouté aussi ceci: « Je me suis dit, ok, je ne peux plus faire ça avec des patins sur la glace, eh bien je vais faire ça sans patin. » Et oui, parce que le patinage artistique, c'est un sport qui est un peu dangereux quand même, un peu à risque. Il faut être très doué, il faut beaucoup d'entraînement.
Avoir un certain équilibre aussi. Oh là là là, on ne le répétera jamais assez.
Mais bon, elle n'a pas de regrets à avoir, cela dit, parce que finalement, on connaît... elle a fait quand même une belle carrière depuis, hein, que ce soit dans la chanson ou même du côté des séries télé. Elle a même fait aussi de la fiction.
Elle est assez éclectique, quoi.
Sur ce, vive les femmes et vive le sport.
Eh ben merci Kevin, on va écouter un titre en entier.
Eh bien moi je vous propose d'écouter le titre d'Imani, Don't Be So Shy.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right.
race so much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further.
Imani, don't be so shy.
On continue notre page culture avec des artistes, hein, toujours sur le thème du sport féminin. Pierre de Coubertin.
C'est un sportif que je crois que c'est dans le 16e.
Le père des Jeux Olympiques modernes.
Tout à fait.
Selon lui, le rôle des femmes aux Jeux Olympiques est de couronner les vainqueurs. Mais 4 ans plus tard, les Jeux Olympiques de Paris, elles sont 22 contre 975 hommes.
Ah ouais, il y a une sacrée différence. Oh là là.
Elle participe aux épreuves de tennis, de voile, d'équitation, de golf et de croquette, car Pierre de Coubertin refuse qu'elle participe aux autres épreuves. En réaction aux idées de ce monsieur, Alice Milliat fonde en 1917 la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Son but est d'offrir des compétitions sportives aux femmes. Ainsi, en 1919, ont lieu les premiers championnats de France de football féminin.
Ah oui, exactement, pour bien dire.
Les sportives ont inspiré de nombreux artistes. Place à une peintre qui nous tire le portrait de femmes sportives en couleur avec Vince Dollar.
Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Vince Dollar vous fait découvrir ses artistes en fonction du thème de l'émission.
C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
Vince Dollar.
Vince Dollar.
Non, Vince Dollar.
Vince Dollar.
Pas Dollar, Vince Dollar.
Vince Dollar.
C'est plus en plus court.
Je sais pas comment.
Alors,
j'ai...
ça veut dire là
Je sais pas.
Fille du vent.
Ah, la fille du vent. Oh oui, la fille du vent.
Et pas la fille au vent.
Non, non, bah non, parce que... elle va pas être contente, sinon elle va vouloir donner des... Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente. Hein.
Selon certains vestiges archéologiques, la pratique de disciplines sportives pour les femmes existait au cœur de certaines civilisations de l'Antiquité. Cela reste anecdotique, se perd au fil des siècles. Actuellement, pourrions-nous poser la question de « existe-t-il des sports typiquement féminins ?» Je ne sais si Mickey de Goudaboum, dont je vous ai parlé lors d'une toute autre chronique, s'est posé la question, mais pour elle, loin des écrans de télé et des smartphones, elle aime à retranscrire avec sa palette l'existence, la vie, les paysages de ses expériences de manière universelle. Quoi de mieux après avoir visionné un match ou s'être rendu à une compétition comme un photographe, finalement restituer cet instant en une toile à la palette étudiée, teintée des émotions ressenties et pouvoir rêver devant ce même tableau, une fois qu'il est là, présent dans la pièce, imprégnant cette pièce de sa présence sans limite temporelle. Ici c'est un peu de ça, avec cette toile Golf Fascination aux couleurs d'été et qui dégage force et sérénité dans un style contemporain où le portrait de cette sportive représente un peu toutes les femmes, passionnées de golf mais passionnées, tout court, composées comme un bouquet floral, ou ski jumping avec une perspective innovante. Mickey de Goudaboum, qui est peintre professionnel, 55 ans, né en France, retranscrit tel un grand carnet de voyage via l'aquarelle et l'acrylique essentiellement, ses voyages intérieurs, ses ressentis et l'observation du monde dans lequel elle vit. Découvrez-la sur la plateforme d'Art Majeur et retrouvez-la sur le site internet de Big Bang Station pour pouvoir cliquer sur le lien magique qui vous mènera jusqu'à son univers. À bientôt.
Merci Vince Dollar.
D'ailleurs, en parlant de sport féminin, j'ai pensé à quelque chose. Bon, ça remonte à 1987. Quand, est-ce que vous connaissez Jeannie Longo?
Oui, ah, bah, oui, oui, oui. Et je crois qu'elle était même après d'un invité avec, Laurent Ruquier. Donc, on a toujours essayé.
Oui, bien
c'est
sûr.
Ce mythique. Hein.
Tout à fait.
Oui, c'était en 1987 quand il y avait un coureur, genre, je ne vais pas citer son nom, qui avait dit à Jeannie Longo, une femme sur un vélo, c'est moche. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Moi,
pas du tout, ouais.
Pour ma part, pas du tout.
Pas du tout. Oh, bah non, mais c'est horrible. Vous pouvez voir la vidéo sur notre podcast en ce moment. Allez, on continue notre page culture avec le petit écran. Cette fois, certains films bien connus ont mis à l'honneur la pratique par des femmes de sport à la base plutôt masculin, comme le baseball dans une équipe hors du commun avec Gina Davis et qui a joué dedans.
Alors là.
Elle est très connue. C'est une chanteuse sportive aussi.
Oui.
Tu peux me rappeler oui. juste.
C'est une chanteuse qui a joué dans le film Une équipe hors du commun en 1992.
C'est français ou c'est international?
Ouais, américain. Alors là,
star mondiale américaine.
Alors là,
qui a plus de 60 ans.
Oh, donc elle a une
chère.
Non. C'est l'autre. Elle ne s'aimait pas pendant un certain temps.
Ah,
elle était
concurrente. C'est pas Madonna.
Bah si,
Madonna. Luisa Madonna. Ah,
ouais, il y a aussi le football dont joue la comme Beckham avec.
Ah bah Beckham,
Kira Kinley,
tout 2000, à fait.
2002,
voilà.
Le tennis dans La plus belle victoire avec Kirsten Dunst en 2004 ou encore la boxe dans Million Dollar Baby avec Hilary Swank en 2004. Mais le plus souvent, les héros des films sur le sport restent généralement des hommes. Les femmes, elles, semblent cantonnées à leur discipline de prédilection, la danse, la gymnastique, le patinage artistique, etc.
Complètement.
Et c'est pareil, voire encore plus flagrant sur le petit écran. Stani est parti en quête des trop rares séries télé qui mettent en avant le sport au féminin. Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran?
Je vous dis à plus les séries pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
En quête de Stani.
Ah, notre Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui c'est jolie.
Football américain au soccer, basketball, baseball, boxe, tennis, karaté, que le sport soit au premier plan ou en toile de fond, les séries sportives ne manquent pas. Mais ceux qui pratiquent ces sports, et donc les héros de ces séries, sont généralement des hommes. Alors quelle place y tiennent les femmes? Sont-elles condamnées à rester spectatrices sur le banc de touche? Qui dit sport, surtout en compétition, dit généralement jeunesse et pleine force de l'âge, en tout cas les capacités physiques qui vont avec. Du coup, on trouve beaucoup de teen séries sur le sport dans le cadre du lycée ou de l'université. On pense notamment à la série culte autour du basketball, les frères Scott, 9 saisons dès 2003 sur WB puis CW et en France sur les chaînes du groupe TF1. Les héros sont deux demi-frères qui jouent dans la même équipe des Ravens au lycée de Tree Hill en Caroline du Nord, Nathan et Lucas Scott, interprétés par James Lafferty et Chad Michael Murray. Les garçons jouent au ballon donc et les filles jouent les supportrices. Véritable institution outre-Atlantique, les sportifs sont en effet encouragés par des pop-up girls. Après, supporter une équipe est également devenu une discipline sportive à part entière, le cheerleading, qui commence aussi à trouver ses marques en France d'ailleurs. Les cheerleaders, essentiellement des femmes, sont de véritables athlètes mêlant danse, gymnastique et acrobatie. On trouve également des femmes ou des jeunes filles en tête d'affiche des séries consacrées au sport, mais le plus souvent toujours dans les mêmes disciplines, considérées comme féminines. La gymnastique avec championne à tout prix. 3 saisons dès 2009 sur ABC Family, puis en France sur Gulli. 4 adolescentes gymnastes de haut niveau dans une petite ville du Colorado ne rêvent que d'être sélectionnées dans l'équipe nationale américaine pour participer aux Jeux Olympiques. La danse classique avec la série franco-allemande Lena Rêve d'étoiles. 3 saisons dès 2018 sur Disney Channel. On suit les aventures d'une jeune danseuse élève à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Le patinage artistique avec la série allemande Le Rêve de Diana ou la série américaine Netflix Spinning Out, dont je vous ai déjà parlé dans l'émission Big Bang sur le thème des sports d'hiver. Ou encore, plus original, le roller derby avec la série française Derby Girl, 2 saisons dès 2020 sur France Télé. Une jeune star déchue du patinage artistique, encore, jouée par Chloé Jouanet, à l'ego surdimensionné, décide de devenir la plus grande championne de roller derby de tous les temps, rien que ça, pour flatter son ego. Mais intègre une équipe de bras cassés, les Cannibales Licornes. D'autres séries dont l'action se déroule au sein d'écoles ou d'académies d'enseignement sportif affichent une parité homme-femme, tant dans la pratique du sport que dans l'importance des personnages. Une des premières à avoir ouvert la voie, la série française Extrême Limite, 2 saisons dès 1994 sur TF1. On suit le quotidien de plusieurs jeunes gens, hommes et femmes donc, au sein de l'Académie du sport extrême du côté du Cap Estérel sur la Côte d'Azur. VTT, parachutisme, escalade, planche à voile, ski nautique, à chaque épisode, ils doivent relever un défi sportif dans une discipline différente. Et je m'abstiendrai de vous fredonner le générique culte de la série pour épargner vos oreilles, mais ce n'est pas l'envie qui me manque. La série canadienne 15A ou Match au Canada sur le tennis, 3 saisons dès 2004 sur YTV, puis chez nous sur France Télé, nous plonge dans le quotidien des jeunes et talentueux élèves de l'Académie de tennis de Cascadia, tour à tour amis et adversaires. Ou encore la série culte espagnole Un, dos, tres sur la danse, entre autres. 6 saisons diffusées dès 2004 sur les chaînes du groupe M6. On y suit le quotidien de jeunes apprentis artistes, dont l'actrice Monica Cruz, au sein de la meilleure école des arts de la scène du pays pour y perfectionner leurs talents artistiques et notamment la danse. La première saison d'une suite, Un, dos, tres, nouvelle génération, a été diffusée en 2023 sur W9. Il faut dire que le tennis et la danse, comme le patinage artistique, sont des sports qui se prêtent peut-être davantage à la parité que d'autres, puisqu'ils peuvent se pratiquer en couple ou duo mixte. Trop longtemps chasse gardée des hommes, certains sports, souvent les plus populaires, notamment de contact, considérés comme plus violents ou nécessitant de la force physique, ont encore du mal à s'ouvrir aux femmes, dans la vie comme dans la fiction. Dans les séries télé, les personnages féminins semblent encore trop souvent cantonnés à leur sport de prédilection, nécessitant davantage grâce et souplesse, mis à part le roller derby, bien sûr. Pourtant, heureusement, les choses évoluent et il existe quelques exceptions qui montrent à quel point se faire une place dans certaines disciplines sportives a été difficile pour les femmes et le reste encore parfois aujourd'hui. On commence avec du football américain dans la teen série Bella et les Bulldogs, 2 saisons dès 2015 sur Nickelodeon. Pop-home girl pour l'équipe des Bulldogs de son lycée, Bella Dawson a toujours rêvé d'être quarterback. Sa vie prend une tournure inattendue quand l'occasion se présente miraculeusement, mais elle va devoir s'imposer dans une équipe de garçons. Dans le même esprit, on passe au baseball dans Pitch de Dan Fogelman, créateur de This Is Us. Une seule saison en 2016 sur le réseau Fox. Histoire d'une prodige du baseball, première femme à rejoindre une équipe de la Ligue majeure et des difficultés qu'elle va rencontrer. Elle va devoir prouver son talent sur le terrain à ses coéquipiers masculins qui ne voient pas son arrivée d'un bon œil et aussi au public. Du baseball toujours dans A League of Their Own, reboot du film Une équipe hors du commun. Une saison en 2022 sur Amazon Prime. Les joueurs professionnels de baseball partis au front pendant la Seconde Guerre mondiale, des propriétaires de clubs s'associent pour créer une ligue féminine afin de sauver les clubs et le sport. La série suit une équipe féminine très atypique dans les années 40. Et on termine cette chronique comme elle a commencé, avec du basketball, mais féminin cette fois, dans Big Shot de David E. Kelly, le créateur entre autres d'Ally McBeal, Boston Justine, Big Little Lies. 2 saisons dès 2021 sur Disney+. Licencié de son poste sur un campus universitaire, un coach de basket caractériel joué par l'acteur John Stamos se retrouve à entraîner une équipe de lycéennes étonnamment douée. Une bonne dose de sport, de performance et de féminité qui fait du bien, car ça n'est pas incompatible, bien au contraire. Les séries télé sont souvent le reflet de la société et de son évolution. Le sport et la place qui occupent les femmes ne font pas exception. Voilà pourquoi les fictions mettent encore davantage en avant la pratique de sport par la gent masculine. N'oublions pas que si le but d'une série peut être de montrer l'exemple, il est aussi de trouver son public et de faire de l'audience. Mais il y a du mieux et c'est tant mieux. Sur ce, je vous dis à plus les Sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani.
Oh bon, on espère qu'elle va bien Stani. On peut que l'encourager.
Surtout que maintenant t'arrives à prononcer son prénom.
Bon, oui, toujours parce qu'elle va pas être contente. Coucou Stani des studios. On te salue bien amicalement. Des belles choses.
Et on termine cette page culture sur le sport féminin par de la BD. D'après les combattantes d'Isabelle Colomba et Sophie Bouxom, le rugby, sport créé en 1823 par un étudiant anglais, n'avait été pratiqué par aucune femme jusqu'en 1880. L'Irlandaise Emily Valentine a été la première femme à faire partie d'une équipe de rugby. Aujourd'hui, selon la Fédération internationale World Rugby, le rugby féminin enregistre des taux records de participation avec 2,7 millions de joueuses dans le monde. Les féminines représentent aujourd'hui plus d'un quart de la population totale des joueurs, avec une augmentation de 28% du nombre de joueuses inscrites depuis 2017. La bande dessinée et les combattantes des éditions Actes Sud retracent toute l'histoire du rugby féminin de 1880 à aujourd'hui, comme va nous en parler Eric.
Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un coup de cœur. Il s'agit de la bande dessinée Les Sauveurs.
Eric nous fait découvrir le 9e art, sous l'angle de l'émission.
Je connais le 7e art, mais le 9e art, c'est quoi? C'est peut-être sur les livres, Didier?
Le 9e art, c'est la BD.
Comme quoi on apprend toujours quelque chose.
Alors voilà une bande dessinée que j'ai trouvée très intéressante d'un point de vue témoignage, historique et riche en forme d'information. Combattante, rugby, une histoire de femme est une bande dessinée que l'on pourrait considérer comme documentaire. L'ouvrage nous présente l'histoire de la pratique du rugby par les femmes, sport qu'elles n'avaient pas le droit de pratiquer dans les années 70. Hein, à cette époque-là, on pensait que tout sport de contact leur était interdit car c'était dangereux et pas assez féminin. Ah, l'image de la femme dans la société. Hein.
Mais heureusement que ça s'améliore.
Ouais, ça a beaucoup avancé. Hein. C'est, oh là là, toi.
Tout doucement.
Mais... Tout doucement, mais sûrement.
Voilà.
On va l'espérer. La bande dessinée est assez bien fournie en informations que l'on peut considérer comme un livre d'études. Il présente une table des matières avec différentes parties qui composent la BD, une page source où l'on peut trouver les bibliographies, les sonothèques, la cytographie et les filmographies, une chronologie de 1922 à 2022, la règle du jeu de rugby. Alors oui, c'est très important pour les novices comme moi, parce que je ne connaissais rien au rugby. Et les témoignages pertinents des pionnières et de 8 joueuses de rugby que l'on retrouve au début et à la fin de la bande dessinée, et surtout le contenu qui se consulte de manière très aisée entre illustrations encore historiques et bulles anecdotiques. Alors le contenu, justement, parlons-en. La première partie intitulée « Forte » nous pose les bases. Alors, saviez-vous qu'avant l'arrivée du rugby en France, un sport similaire existait déjà sur le territoire ?
C'est lequel ?
Je l'ai su, mais je le... plus.
Le baseball ou pas ?
Alors non, c'est pas le baseball, c'est un nom très, très drôle d'ailleurs, il s'agissait de la barrette.
Ah bon ?
La barrette.
Ah, ça me dit quelque chose.
Ah, bah, je découvre.
En fait, ça a été inventé à l'époque de la Révolution française et c'est à la fin du 19e siècle qu'elle a été vraiment popularisée dans le but de lutter contre le football rugby qui est venu du Royaume-Uni.
Rien à voir avec ce qui tient les cheveux
de petit Manu. Ah, non.
Justement, je pensais justement à Tignasse.
Quoi ? Non, je l'ai redit.
T'avais une barrette dans les cheveux.
Je découvre plutôt ce que dit. Fort intéressant.
Bah si, même que quand Eric il a failli s'asseoir sur son siège, il a dit qu'est-ce que c'est ?
Non. Ça, c'est la bonne imagination de Didier. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. On apprend à tout moment, d'ailleurs.
Alors, justement, c'est pendant une autre lutte, celle de l'égalité sociale et politique avec les hommes, qu'en 1920, on assiste à l'invention d'un rugby que l'on pourrait qualifier de féminin. La barrette va mettre alors en lumière ces femmes, mais sera très vite interdite en 1930, car bon nombre de sports leur seront interdits, comme la pratique de football, le cyclisme et le sport de combat. Donc dans la seconde partie de la bande dessinée, on apprend qu'entre 1965 et 1979, les femmes sont de retour sur les terrains de rugby dans les années 60, même de manière illégale. Hein. La force des choses fait qu'en 1966 naît le premier club de rugby féminin. L'année 68 participera donc aussi à cette émancipation. Hein. Faut dire qu'à cette époque, seuls 9% de femmes françaises pratiquent des activités physiques. Alors plus loin dans la bande dessinée, on avance vers la reconnaissance des joueuses de femmes dans les années 1980. On constate par exemple en 1982 et 83 le nombre de femmes licenciées en rugby multiplié par 2. Il passe par exemple de 283 licenciées joueuses à 456. D'ailleurs, ce n'est pas qu'en France qu'on assiste à cette montée, on le voit dans d'autres pays à cette époque-là, avec la Hollande, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Canada, en Espagne et au Japon. Alors, ce qui est intéressant de constater à cette période, c'est que malgré les premiers matchs internationaux et la première coupe du monde, pour les femmes, cette pratique implique de nombreux sacrifices entre les compétitions et surtout gagner sa vie. Alors, contrairement aux hommes qui, depuis août 1995, ont entamé leur professionnalisation et ainsi augmenté le rythme de leur entraînement, c'est en 1996-97 que les femmes joueuses de rugby passent progressivement d'un sport de loisir à une pratique de haut niveau par la Fédération française de rugby. Et vous savez, c'est grâce à qui d'ailleurs ? Une ministre qui est très connue.
Roselyne Bachelot ?
Avant, je dirais avant, Roselyne Bachelot.
Quel gouvernement ?
Alors, c'était un gouvernement donc de 1997, entre 97 et 2002.
C'est pas Marie-Georges Buffet ?
C'est exactement ça, bravo, c'est bien ça.
C'est bien, t'as des connaissances.
En effet, c'est grâce à elle...
Gouvernement Jospin, je précise.
Exactement, c'est ça, qui a fait que ces femmes-là pouvaient avoir des indemnités pour pouvoir donc être à l'entraînement ou faire les matchs, donc qui ont aidé, qui ont contribué justement à faire monter ce sport en succès pour les femmes. C'est la montée donc des marches vers la reconnaissance. Elles toucheront, donc, comme je le disais, d'indemnités pour des jours consacrés au stage et aux matchs en 2000. Et participent au tournoi donc, des 5 nations féminins en 2011. Retransmission pour la première fois d'un match de rugby féminin à la télévision dans une chaîne du service public. Et même si 2014 est une année difficile pour le rugby féminin, car l'on constate que le relayage auprès des médias et du public ne rencontre pas un vif succès comme les autres sports, un troisième match remporté par l'équipe de France de rugby féminin va les mettre en lumière et une réelle reconnaissance au rugby mondial. En 2007-2018, les Bleus, alors je les appelle les Bleus, alors vous avez compris que c'était les Bleus féminins,
exactement. Avec un E.
Avec un E.
Pour préciser.
Affiche des résultats historiques et dirige vers des perspectives certaines et solides. Comme le dit si bien le résumé de la bande dessinée combattante d'Isabelle Colomba et Sophie Bouxhomme des éditions Actes Sud, c'est une histoire récente qui croise sport féministe, politique et continue de s'écrire grâce à de nombreux rugbywomen. Sur ces belles paroles, amis lecteurs, je vous souhaite de très bonnes lectures.
Eh ben merci Eric. Et cette émission spéciale sport féminin en partenariat avec journeemondiale.fr, c'est déjà fini. Mais si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, ben, Big Bang Station est rediffusé sur de nombreuses radios, à peu près 25, voire beaucoup plus. Vous retrouverez la liste non exhaustive sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et moi, je vous cite un proverbe d'une athlète américaine, Gabby Douglas. Les mauvaises journées sont finalement les meilleures car elles forgent le caractère d'une championne.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème, le bilan du dry...
Janvier en anglais.
January.
Lui, il me dit le bilan du Canada dry.
Quand Didier m'en a parlé, je croyais que c'était une blague. Et bien, grâce à Didier, j'ai appris.
D'ailleurs, petit sondage, qui a bu parmi vous ce mois-ci?
Moi, j'aime pas l'alcool.
Oui, mais en tout cas, j'ai appris. En préparant ce sujet, j'ai appris que ça existait. Et je te remercie beaucoup, Didier. Comme quoi on apprend tout, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Petit, même grand.
Salut à toutes et à tous.
Bonne semaine.
Salut. Prenez soin de vous.
Faites attention à vous.
Okay, let's stop.